l'histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 7. Aussi longtemps que l'herbe poussera et que couleront les rivières. Première partie. Si les femmes formaient, dans cette société régie par les hommes blancs les plus fortunés, le groupe dominé le plus intime et le plus proche de la sphère domestique, inscrit de fait dans la sphère domestique, les Indiens, eux, composaient le groupe le plus externe, le plus étranger à cette société. À la fois nécessaire et proche, les femmes subissaient moins la violence des hommes que leur paternalisme. Les Indiens, en revanche, dont on ne pouvait rien faire et qui représentaient même un obstacle, étaient les victimes de la force brutale des Blancs, même si le discours paternaliste précédait bien souvent l'incendie des villages. C'est ainsi que le déplacement des Indiens, euphémisme alors en usage, permit l'installation de populations blanches sur les terres situées entre les Appalaches et le Mississippi, pour le coton au sud, les céréales au nord et, plus généralement, pour favoriser l'expansion, l'immigration, la construction de canaux, de lignes de chemin de fer, l'édification de nouvelles villes d'un empire continental gigantesque qui s'étendait jusqu'au Pacifique. Le coût en vie humaine ne peut être estimé avec précision. Quant aux souffrances, elles sont purement et simplement incommensurables. La plupart des manuels d'histoire destinés aux enfants passent d'ailleurs rapidement sur tout cela. Ce sont les statistiques qui racontent le mieux cette histoire. Nous en trouvons dans Fathers and Children de Michael Rogin. En 1790, il y avait environ 3 900 000 Américains, dont la majeure partie vivait à moins de 80 km de l'océan Atlantique. En 1830, ils étaient 13 millions. En 1840, 4 500 000 personnes avaient déjà franchi les Appalaches pour rejoindre la vallée du Mississippi. Gigantesque territoire traversé par les affluents du Mississippi, arrivant aussi bien de l'est que de l'ouest. En 1820, 120 000 Indiens vivaient à l'est du Mississippi. En 1844, ils n'étaient plus que 30 000. La plupart avaient été contraints de se déplacer vers l'ouest. La notion de contrainte ne peut néanmoins pas rendre compte de ce qu'il s'était réellement passé. Au cours de la guerre d'indépendance, presque toutes les nations indiennes de quelque importance avaient combattu aux côtés des Britanniques, qui, une fois la paix conclue, rentrèrent chez eux. Mais les Indiens étaient chez eux, et ils continuèrent de lutter pour défendre leurs terres contre les Américains de la frontière en menant des opérations de résistance parfaitement désespérées. Les milices de Washington, affaiblies par la guerre, ne parvenaient pas à les contenir. Devant les déroutes répétées des avant-gardes américaines, Washington entama une politique de conciliation. Secrétaire à la guerre, Henry Knox, reconnaissait que les Indiens, étant les premiers occupants, jouissent du droit du sol. En 1791, son secrétaire d'État, Thomas Jefferson, affirmait quant à lui qu'on ne devait pas se confronter aux Indiens lorsqu'ils vivaient à l'intérieur d'un État et que le gouvernement devrait expulser les colons blancs qui tentaient de s'infiltrer sur leur territoire. Mais à mesure que les Blancs progressaient vers l'ouest, la pression se fit de plus en plus forte sur le gouvernement fédéral. En 1800, quand Jefferson fut élu président, il y avait déjà 700 000 colons blancs à l'ouest des Appalaches. Au nord, ils pénétrèrent en Ohio, dans l'Illinois et dans l'Indiana, et au sud, en Alabama et au Mississippi. On y comptait à cette époque 8 blancs pour un Indien. Jefferson organisait déjà l'expulsion future des Creeks et des Cherokees de Géorgie. Sous le gouverneur William Henry Harrison, les agressions à l'encontre des Indiens s'accrurent dans le territoire de l'Indiana. En 1803, lorsque Jefferson doubla la superficie de la nation américaine en achetant la Louisiane à la France, repoussant ainsi la frontière des Appalaches jusqu'aux montagnes rocheuses à travers le Mississippi, il imaginait que les Indiens pourraient s'y installer. Il proposa donc au Congrès d'encourager les Indiens à s'établir sur des lopins de terre moins vastes pour s'y livrer à l'élevage et à l'agriculture. En outre, pensait-il, il fallait également les inciter à commercer avec les Blancs et à contracter des dettes qu'ils rembourseraient par la vente de lopins de terre. Deux mesures semblent absolument indispensables. D'abord, encourager les Indiens à abandonner la chasse, puis multiplier les comptoirs de commerce sur leur territoire, les vouant ainsi à l'agriculture, à l'artisanat et à la civilisation. Ce discours de Jefferson est d'une importance cruciale. Le déplacement des Indiens était nécessaire pour permettre l'ouverture de vastes territoires à l'agriculture, au commerce, au marché, à l'argent, bref, au développement d'une économie capitaliste moderne. La terre était au cœur de ce processus. Après la Révolution, de vastes étendues furent donc acquises par de riches spéculateurs fonciers, parmi lesquels George Washington et Patrick Henry eux-mêmes. Caroline du Nord, des terres particulièrement riches appartenant aux Indiens Chickasaw furent mises en vente, bien que les Chickasaw eussent été parmi les rares tribus indiennes à avoir combattu aux côtés des révolutionnaires. De surcroît, il existait un traité qui leur garantissait la propriété de leurs terres. John Donelson, un arpenteur de l'État, réussit tout de même à s'en octroyer quelques 8000 hectares près de l'actuel Chattanooga. En 1795, son gendre, Andrew Jackson, ne fit pas moins de 22 voyages aux environs de Nashville en vue d'acquérir des terres. C'est Andrew Jackson, spéculateur foncier, négociant et marchand d'esclaves, était surtout le plus farouche adversaire des Indiens que l'histoire de la toute jeune Amérique eût jamais connu. Il devint un véritable héros au cours de la guerre de 1812, qui ne fut pas, quoi qu'en disent les manuels d'histoire, un simple réflexe de survie de la part de la jeune nation face à l'agressivité des Anglais, mais une véritable guerre d'expansion vers la Floride, le Canada et les territoires indiens. Tecumseh, un chef Shawnee, tenta de coaliser les Indiens contre l'invasion des Blancs. Furieux de la cession d'une vaste étendue de terre par certains Indiens qui s'étaient laissés influencer, il organisa en 1811 un regroupement de 5000 Indiens sur les rives de la Tallapoosa River, en Alabama, au cours duquel il fit cette déclaration. « Que périsse la race blanche. Ils ont pris vos terres, ils corrompent vos femmes, ils piétinent les cendres de vos morts. Nous devons les reconduire chez eux par la piste du sang. » Les Creeks, qui occupaient la majeure partie de la Géorgie, de l'Alabama et du Mississippi, restaient néanmoins divisés. Les uns, pour vivre en paix, souhaitaient adopter la civilisation des Blancs. Les autres, appelés « bâtons rouges », défendaient leurs terres et leur culture. En 1813, ils massacrèrent 250 personnes à Fort Mims. En représailles, les troupes de Jackson incendièrent un village creek, tuant hommes, femmes et enfants. Jackson eut alors recours à une stratégie de récompense en terre et en butin. Si un groupe de Creeks ou de Cherokee amis, ou même des Blancs, s'empare de biens appartenant au bâton rouge, ces biens appartiennent à ceux qui les ont pris. C'est en 1814, au cours de la bataille de Horseshoe Bend, contre un millier de Creeks, que Jackson devint un héros national. Cette bataille fit près de 800 morts parmi les Indiens et un petit nombre seulement du côté américain. Les attaques frontales des troupes blanches avaient pourtant échoué à plusieurs reprises contre les Creeks. Ce sont les Cherokees qui accompagnaient Jackson après qu'on leur eut promis l'amitié du gouvernement s'ils se joignaient à cette guerre, qui traversèrent la rivière à la nage, prirent les Creeks à revers et gagnèrent la bataille pour Jackson. Quand la guerre cessa, Jackson et ses amis commencèrent à acheter les terres confisquées aux Creeks. Jackson lui-même fut chargé de la négociation et concocta un traité qui confisquait la moitié du territoire de la nation Creek. Rogin affirme qu'il s'agissait de la plus importante cession de terres indiennes au sud du territoire américain. Le traité confisquait aussi bien les terres des alliés Creeks de Jackson que celles des Creeks qu'il avait combattus. Selon Rogin, Jackson a conquis le meilleur du territoire Creek, qui devait assurer la prospérité du sud-ouest américain. Il avait fourni à l'Empire du Coton, en plein essor, un vaste et riche territoire. Ce traité de 1814 avec les Creeks inaugurait quelque chose de nouveau et de primordial. Il accordait aux Indiens des droits individuels de propriété foncière, les distinguant les uns des autres, disloquant la propriété commune de la terre, donnant des terres aux uns et abandonnant les autres dans le plus grand dénuement. Bref, il introduisait cet esprit de compétition et d'intrigue caractéristique de l'esprit capitaliste occidental. De 1814 à 1824, par une série de traités signés avec les Indiens du Sud, les Blancs s'approprièrent les trois quarts de l'Alabama et de la Floride, un tiers du Tennessee, un cinquième de la Géorgie et du Mississippi, ainsi que certaines régions du Kentucky et de la Caroline du Nord. Jackson joua un rôle majeur dans la ratification de ces traités. Selon Rogin, ses parents et amis se virent confier des postes du premier plan, officier du Bureau des Affaires Indiennes, négociant, responsable de l'application des traités, contrôleur et spéculateur foncier. Jackson lui-même a expliqué comment ces traités étaient élaborés. « Nous nous adressions d'emblée aux passions dominantes et décisives des Indiens, c'est-à-dire l'avarice ou la peur. » Il encourageait les Blancs à s'installer sur les territoires des Indiens, puis annonçait à ces derniers que le gouvernement ne pouvait pas expulser les nouveaux venus. Il valait mieux dès lors renoncer à ces terrains plutôt que risquer d'être massacré. Jackson pratiquait la corruption à grande échelle. Ces traités et ces saisies de terres jetèrent les bases de l'Empire du Coton, les plantations esclavagistes. À chaque fois qu'un traité était signé, qui expulsait les Creeks d'une région vers une autre et leur promettait la sécurité de leurs nouvelles terres, les Blancs venaient s'y installer également et les Creeks devaient alors signer un nouveau traité qui garantissait de nouveau leur sécurité ailleurs en échange de nouvelles terres. Ce travail de Jackson permit d'étendre les installations de populations blanches jusqu'à la frontière avec la Floride espagnole. Là, elles se heurtèrent aux communautés d'Indiens séminoles que des réfugiés bâtons rouges avaient rejoints et que les agents britanniques soutenaient dans leur résistance aux Américains. Comme d'habitude, des colons blancs s'installèrent sur les terres des Indiens. Ces derniers les attaquèrent. Des crimes atroces furent commis dans les deux camps. Lorsque des villages refusaient de livrer des individus accusés d'avoir assassiné des Blancs, Jackson ordonnait leur destruction complète. Autre provocation de la part des Séminoles. Des esclaves noirs en fuite trouvaient régulièrement refuge chez eux. Les Séminoles, eux-mêmes, achetaient ou capturaient fréquemment des esclaves noirs. Mais leur mode d'esclavage s'apparentait davantage à l'esclavage africain qu'à celui des plantations de coton. Les esclaves vivaient d'ordinaire dans leur propre village et leurs enfants étaient souvent affranchis. Les mariages mixtes n'étaient pas rares. Il y eut assez rapidement des villages indiens à population métissée. Les propriétaires esclavagistes du Sud s'en scandalisaient, d'autant plus qu'ils voyaient là une véritable tentation pour leurs propres esclaves avides de liberté. Jackson commença donc à lancer des raids sur la Floride espagnole sous prétexte qu'elle servait de sanctuaire aux esclaves en fuite et aux bandes d'indiens insoumis. Selon lui, la Floride était absolument nécessaire à la sécurité des États-Unis, préambule classique à toutes les guerres de conquête. Ainsi commença en 1818 la guerre contre les Séminoles, qui allait conduire à l'acquisition de la Floride par les États-Unis. Les cartes scolaires mentionnent l'acquisition de la Floride en 1819. Cette acquisition fut, en réalité, le résultat d'une véritable campagne militaire menée par Andrew Jackson de l'autre côté de la frontière américaine. Il y incendia les villages séminoles et s'empara des places fortes espagnoles. L'Espagne fut finalement persuadée de vendre la Floride et Jackson continua de prétendre qu'il agissait selon les lois immuables de la légitime défense. De 1814 à 1824, par une série de traités signés avec les Indiens du Sud, les Blancs s'approprièrent les trois quarts de l'Alabama et de la Floride, un tiers du Tennessee, un cinquième de la Géorgie et du Mississippi, ainsi que certaines régions du Kentucky et de la Caroline du Nord. Jackson joua un rôle majeur dans la ratification de ces traités. Selon Hugging, ses parents et amis se virent confier des postes du premier plan, officier du Bureau des Affaires indiennes, négociant, responsable de l'application des traités, contrôleur et spéculateur foncier. Il encouragea les Blancs à s'installer sur les territoires des Indiens, puis annonçait à ces derniers que le gouvernement ne pouvait pas expulser les nouveaux venus. Il valait mieux dès lors renoncer à ces terrains plutôt que risquer d'être massacré. Jackson pratiquait la corruption à grande échelle. Ces traités et ces saisies de terres jetèrent les bases de l'empire du coton, les plantations esclavagistes. Ce travail de Jackson permit d'étendre les installations de populations blanches jusqu'à la frontière avec la Floride espagnole. Là, elles se heurtèrent aux communautés d'Indiens séminoles que des réfugiés bâtons rouges avaient rejoints. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
Howard Zinn.